Il y a des accusations contre Philippe II du Portugal, sa première femme, alors qu'il aurait déjà, par exemple, contracté un mariage secret avec Isabelle d'Osorio. Il y a des accusations d'inceste ayant épousé en quatrième mariage une nièce, Anne d'Autriche. Il y a des accusations plus graves encore contre Philippe II d'assassinat, bien sûr. C'est toute l'affaire de Don Carlos qui traîne dans la littérature jusqu'à 1787, c'est-à-dire au Don Carlos de Schiller. Au XIXe siècle, ça a fait les beaux jours des historiens romantiques. Cette thèse de l'assassinat, il faut la grossir avec le fait qu'il aurait empoisonné Isabelle de Valois, sa troisième épouse. Donc la personnalité de Philippe II est entourée, je dirais, de sang ou de déviations sexuelles nombreuses. Deuxième série d'attaques contre l'Espagne à propos de la légende noire, il y a tout ce qui appartient au domaine de l'Inquisition, c'est-à-dire les horreurs du duc d'Albe dans les Pays-Bas espagnols, l'horreur de l'Inquisition naturellement sur le sol ibérique lui-même, c'est ce qu'on voyait ce matin avec la répression des morisques et du judaïsme, des conversos plus tard, et c'est l'image au fond de moines fanatiques, naturellement dominicains, qui étouffe en même temps tout progrès, l'Inquisition étant la face obscure et horrible de ce retard espagnol que l'on constate au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, avec la grande libération qui se termine mal naturellement par la guerre d'indépendance à l'époque napoléonienne, quand les Espagnols renâclent à être libérés par le code civil. Troisième grand groupe de critiques, c'est l'affaire alors du massacre des Indiens. Du massacre des Indiens avec l'exploitation polémique des textes qu'on a déjà analysés les uns et les autres, essentiellement la controverse Sepúlveda et Las Casas, dont les publications sont reprises constamment au XVIIe et XVIIIe siècle. Voilà, si vous voulez, les trois séries en quelque sorte. Attaque contre la personne de Philippe II, attaque contre l'Inquisition considérée comme source de tout l'obscurantisme et massacre des populations indiennes. Je pars par conséquent du XVIIIe siècle et j'essaie de remonter dans le temps. Au XVIIIe siècle, les positions sont, je dirais, ambiguës. Il y a deux thèses, il y a des hispanophiles et des philosophes hispanophobes nombreux. Hispanophiles le sont, je dirais, d'une façon tranquille, ceux qui vivent de l'Espagne, c'est la moindre des choses qui n'en disent pas trop de mal, à savoir les colonies françaises installées en Espagne, les gens de Saint-Malo, par exemple, installés depuis très longtemps à Cadix, les différents ministres du roi de France qui ont fait d'abord leur première fortune en Espagne, je pense à Horry, à Sartine, à toutes ces dynasties d'intendants qui ont été étudiés pour l'Espagne et dont beaucoup sont d'origine, enfin certains techniciens en tout cas, sont d'origine française. Il y a aussi alors le retournement favorable à l'Espagne qui apparaît bien sûr avec le pacte de famille, l'alliance des Bourbons et la montée sur le trône de Philippe V au début du XVIIIe siècle. Ce partage, il apparaît très nettement dans l'Encyclopédie méthodique, par exemple, en 1782, qui est très hostile à l'Espagne et qui dit « Que doit-on à l'Espagne depuis deux siècles, depuis quatre siècles, depuis dix siècles? Qu'a-t-elle fait de bon pour l'Europe? Rien. » Ben, c'est clair, c'est net, donc l'Espagne, c'est la négation. Par contre, l'avocat Linguet, en 1770, écrit « Les Français doivent 100 fois plus aux Espagnols qu'aux autres peuples de l'Europe. » Deux positions, à peu près à la même époque, qui sont diamétralement opposées. Au début du XVIIIe, des gens qui écrivent des traités techniques sur le droit des étrangers en France, c'est-à-dire essentiellement l'affaire du droit d'aubaine, est-ce qu'on doit continuer le droit d'aubaine, n'est-ce pas, c'est-à-dire prélever au profit du roi les fortunes des étrangers morts en France, s'ils ne sont pas naturalisés, Emmanuel de Gamma écrit en 1706... La nation espagnole est aujourd'hui liée avec la française avec un lien indissoluble. Les Français sont reçus en Espagne comme les Espagnols sont reçus en France avec la même liberté que s'ils demeuraient dans leur propre pays. Ça, c'est la face, je dirais, positive des rapports globaux franco-espagnols. Mais avec l'encyclopédie méthodique, on voit bien qu'il y a déjà un aspect, je dirais, quasi-démoniaque de l'Espagne. Et alors, si on se borne à deux auteurs, parce qu'ils ont été quand même normatifs, ils ont eu une influence considérable, à savoir Voltaire et Montesquieu, on trouve là alors la quintessence des attaques contre l'Espagne, reprenant les trois thèmes que j'ai définis au départ. Ça se trouve naturellement dans Voltaire, dans Candide, au chapitre 6, comment on fit un bel auto-da-fé pour empêcher le tremblement de terre et comment Candide fut fessé. Au chapitre 9, ce qu'il advint de Cunégonde, de Candide, du grand inquisiteur et d'un juif. Alors quand on lit après les chapitres, on voit qu'après le tremblement de terre, celui de Lisbonne naturellement, qui avait détruit les trois quarts de la ville, les sages du pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple un bel auto-da-fé. L'auto-da-fé étant le spectacle, bien sûr, qui est en même temps destiné à orienter contre les hérétiques ou les juifs l'hostilité du peuple. Alors celui qui monte sur le bûcher, c'est un biscayen qui avait épousé sa commère, donc c'était interdit théoriquement par l'Église, et deux Portugais parce qu'ils avaient mangé un poulet en retirant le lard de ce poulet, si tant est qu'il ait eu du lard, avant de le manger, naturellement, s'ils retiraient le lard d'un poulet, c'est qu'il ne pouvait être que des crypto-juifs. Pangloss va être pendu par l'Inquisition et Candide sera, on se bornera à lui donner cette bastonnade. Et Candide tuera le juif Issachar, le côté antisémite bien connu de Voltaire apparaît ici, et il tue le grand inquisiteur parce qu'il voulait se partager la personne de la pauvre Cunégonde. Sur le Paraguay, alors le Paraguay est admiré dans les réductions par certains, comme l'abbé Rénal, qui admire le côté collectiviste de l'entreprise des jésuites, mais par contre, pour Voltaire, c'est une chose admirable que ce gouvernement du Paraguay, Los Padres y ont tout, les peuples rien, c'est le chef-d'œuvre de la raison et de la justice, et le commandant, qui est un jésuite, mange dans un cabinet de verdure au milieu des perroquets, des colibris et des oiseaux-mouches. Un excellent déjeuner lui était préparé dans des vases d'or, tandis que les Paraguais mangeaient du maïs dans des écuelles de bois en plein champ à l'ardeur du soleil, et le révérend père commandant entra à ce moment-là dans la feuillée. On a là des textes qui se répètent à l'infini, où l'on voit l'association du moine paillard, du moine avide d'or et naturellement de l'oppression des pauvres indiens. Dans Montesquieu, c'est quelque chose de beaucoup plus élaboré. Et ça se trouve dans Montesquieu, je dirais, partout. C'est ça qui est intéressant. Ça se trouve dans les voyages de Montesquieu. À partir de 1728, il se promène à travers les villes d'Italie. Et chaque fois qu'il y a une connotation péjorative à apporter, elle est en rapport avec l'Espagne. Le Milanais, dit-il, est assez bien cultivé pour un pays qui a été jadis à l'Espagne. Ce n'est pas particulièrement méchant, n'est-ce pas? Mais si ce pays, il est aberrant qu'il soit riche parce qu'il a déjà été à l'Espagne. Et alors dans les pensées, c'est encore plus net, on ne peut penser sans indignation aux cruautés que les Espagnols exercèrent contre les Indiens. Quand on est forcé d'écrire sur ce sujet, on ne peut s'empêcher de prendre le style de la déclamation. Il cite Las Casas, témoin oculaire de toutes ces barbaries. Adrien punissait des révoltés. Ici, on extermine des peuples libres. Les Espagnols, en découvrant les Indes, ont montré en même temps quelle était la dernière période de la cruauté. Le roi d'Espagne était catholique de bonne foi, c'est-à-dire d'une religion qui s'accommodait avec son ambition. C'est la vieille accusation, n'est-ce pas? Les Espagnols se veulent les plus catholiques des Européens et du monde, mais en réalité, la religion leur sert de moyen pour atteindre quoi? Ben pour atteindre l'Empire universel, c'est le vieux reproche qui est fait aux Espagnols. Dans les lettres persanes, vous en trouvez tout autant. Les Espagnols, désespérant de retenir les nations vaincues dans la fidélité, prirent le parti de les exterminer, d'y envoyer d'Espagne des peuples fidèles. Jamais dessein plus horrible ne fut plus ponctuellement exécuté. Et puis, pourtant, l'esprit des lois, qui est quand même beaucoup plus gênant pour l'Espagne, puisque les pensées et les voyages sont connus très tardivement, il y a des textes qui sont sans aucune, sur lesquels il n'y a pas d'hésitation à avoir, à propos, par exemple, au chapitre 26, concernant le sort de l'Inca Atahualpa, il écrit, Montesquieu écrit, « Les principes que nous venons d'établir ont été cruellement violés, c'est-à-dire le droit naturel, par les Espagnols. L'Inca Atahualpa ne pouvait être jugé que par le droit des gens, ils le jugèrent par les lois politiques et civiles de l'Espagne. » Alors je ne conclue pas, n'est-ce pas, sur ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire la différence entre le droit naturel, le droit des gens, etc. Ils l'accusèrent d'avoir fait mourir quelques-uns de ses sujets, d'avoir eu plusieurs femmes, etc. Le comble de la stupidité fut qu'ils le condamnèrent par des lois politiques et civiles de son, non de son pays, mais des lois politiques de l'Espagne. Et on voit ici, naturellement, cette idée qu'ils tirent de la lecture des auteurs issus de Las Casas, il cite Lopez de Gomara, il cite Solis, Garcilaso de la Vega, le père là-bas pour le monde caraïbe, bien sûr, et il dit il faut juger de ces Indiens en fonction soit de leur propre droit qu'ils peuvent posséder à l'époque, soit du droit naturel, mais certainement pas leur appliquer les lois qui régissent les peuples européens et les peuples chrétiens. Quel bien les Espagnols pouvaient-ils faire aux Mexicains? Ils auraient pu leur donner une religion douce. Ils leur apportèrent une suggestion furieuse. J'aimerais autant dire que la religion donne à ceux qui la professent un droit de réduire en servitude ceux qui ne la professent pas pour travailler plus aisément à sa propagation. Et les textes sont très nombreux de cette veine. Si on se demande d'où vient cela, eh bien, naturellement, la première réponse immédiate est de dire très simplement que ça provient de la haine farouche que portent Voltaire et tout autant Montesquieu, quand on le lit, je dirais, dans son intégralité, à la religion catholique qui est représentée le mieux possible pour eux par l'idéal espagnol, la religion à l'espagnol. Et on pourrait se dire que cette légende noire n'apparaît finalement que dans le contexte des philosophes défiant l'Église catholique. En réalité, le XVIIe siècle français présente énormément de textes et d'auteurs qui sont tout autant virulents vis-à-vis de l'Espagne et reprenant les mêmes thèmes de la légende noire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne le font pas dans le même état d'esprit. Ils utilisent le même matériau, c'est-à-dire tout ce qui est glané et qui part de Las Casas, et ils le retournent contre l'Espagne, mais il ne s'agit plus de philosophes déistes, théistes, voire athées, il s'agit de catholiques français dont l'hostilité à l'Espagne les entraîne à utiliser ce fonds de commerce qui a été défini au XVIe siècle autour de Las Casas. Alors, il y a des périodes où ça apparaît particulièrement net, c'est naturellement dans les grands conflits entre la France et l'Espagne, dans le premier XVIIe siècle, tel que par exemple Étienne Thuot l'a étudié dans son travail, son livre ancien sur raison d'État et pensée politique à l'époque de Richelieu. Le groupe qui est autour de Richelieu, qui d'ailleurs n'est pas un groupe stable, qui se reforme constamment par des départs et des entrées, groupe qui est également polymorphe, je dirais, par ses origines philosophiques. Il y a des gens qui, finalement, sont près de Bérulle, et Bérulle lui-même en a fait partie pendant un certain temps. Et puis, il y a des personnages que l'on verra qui sont plus curieux, et qui, notamment, sont des émigrés venus d'Espagne. Ces gens-là, pour des motifs différents, apportent tout un ensemble de pamphlets autour des années 1625-1630. Si l'on prend l'un des principaux d'entre eux, le catholique d'État, qui est de 1625, on y trouve d'abord l'idée qui est en horreur aux yeux des bons catholiques de la raison d'État. S'affrontent, vous le savez, à ce moment-là, deux groupes idéologiques, je dirais entre guillemets, parce que le mot est pratiquement un anachronisme. Il y a les bons catholiques, ce sont ceux qui sont partisans de la paix avec l'Espagne. Ils ont été partisans des mariages espagnols. Ils sont partisans de la paix à l'intérieur, ce qui entraîne l'obligation d'arrêter la guerre pour que l'impôt diminue, empêcher en même temps les révoltes populaires. et naturellement introduire en France le Concile de Trente, qui est introduit déjà en ce qui concerne ces dispositions strictement religieuses, mais qui ne l'est pas en tout cas dans les dispositions disciplinaires. Ils ont des chefs de file. Il y a Bérulle d'abord, il y a Marillac après, jusqu'au moment où Michel de Marillac, le chancelier, tombe en 1630, au moment de la journée des dupes. Ces gens-là font des pamphlets, gênés qu'ils sont, naturellement, d'attaquer, bille en tête, je dirais, Richelieu et Louis XIII. Mais ils font des pamphlets sur le thème de la paix, sur le thème des réductions d'impôts. Par contre, en face, il y a des pamphlets que développent les amis de Richelieu, c'est-à-dire les bons Français, ce groupe hétérogène dont je parlais. L'un de ces pamphlets, anonyme, le catholique d'État de 1625, développe donc l'idée de la raison d'État, qui est, pour les bons catholiques, la raison d'enfer. C'est-à-dire le machiavélisme, n'est-ce pas, et Machiavel étant bien évidemment le diable. L'idée que la justice du royaume a d'autres lois que la justice qui s'exerce entre les particuliers, c'est la double morale. Il y a une morale pour les souverains, ça n'est pas la morale pour les particuliers, c'est ce que refusent les bons catholiques. Dans ce pamphlet, qui est dirigé contre l'Espagne, il y a le reproche, d'abord de porter à l'Espagne, de faire de l'Europe un même empire, la monarchie universelle. Ces Indiens étaient dans les lois de la nature, lit-on dans le catholique d'État, et dans une innocence de mœurs qui faisait honte aux soldats espagnols. On les a traités non comme des ennemis, mais comme des bêtes. Les écoles ont disputé pour savoir s'il fallait les tenir pour des hommes. Les écrits de Sepúlveda, contre lesquels Dieu suscita Bartolomeo de las Casas, sont du tout horrible. Ça a été leur maxime pendant longtemps que les Indiens sont des chiens indignes du christianisme. L'horreur et la solitude ont marché après leurs armées et les îles peuplées de millions d'hommes ont été dépeuplées tout à fait en fort peu d'années. Cet or et cet argent qui en viennent et qui ont tant gâté d'esprit dans les états de l'Europe sont tout couverts du sang des peuples. Il n'y a mine pour extraire l'or, qui n'a coûté la vie à 100 000 personnes. Beaucoup de religieux eux-mêmes ont fait des livres contre l'horreur de ces choses qui sont connues partout. Dans ce texte un peu long, il y a la quintessence de toutes les critiques qu'on peut apporter par la légende noire espagnole à l'Espagne. Si ce texte était mis en français, dans notre français, c'est le français du XVIIIe siècle, celui de Voltaire et de Rousseau, on pourrait dire que c'est un texte des philosophes du XVIIIe siècle. En réalité, il est dans le catholique d'État qui a été lancé sur le marché parisien en mai 1625, commandé par Richelieu et où le père Joseph, selon de Douvres, a tenu la plume. Il y a d'autres textes comparables et en particulier, il y a des textes qui ont été faits par Jérémy Ferrier. Jérémy Ferrier est un ancien pasteur qui s'est converti au catholicisme, et qui est devenue l'une des plumes de Richelieu. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a un certain nombre de ses amis de Richelieu qui sont venus de milieux soit politiques, au sens des antiligueurs du XVIe siècle, reconvertis, et souvent d'ailleurs le fils ou le petit-fils, à cause de l'espace de temps entre les deux périodes, mais de familles, je dirais, de politiques, ou alors des protestants convertis, et qui ne cessent pas pour cela de conserver leur hostilité naturellement contre l'Espagne. C'est le cas de Jérémy Ferrier. Il y a d'autres textes qui font apparaître un véritable racisme anti-espagnol, avec toutes les définitions qu'on peut donner du racisme. Naturellement, si je voulais être exact, il faudrait que je travaille ça en duo avec quelqu'un qui présenterait la légende noire française, car j'imagine qu'elle existe du côté espagnol et qu'ils ont rendu la monnaie de la pièce aux Français, avec des termes qui doivent avoir la même aménité vis-à-vis des Français. Mais je me tiens à mon sujet et je suis, je dirais, avocat de Philippe II en l'occurrence. Et je me place par conséquent dans un mauvais parti. Ce texte qui paraît l'année suivante, en 1626, le jubilé d'un Espagnol, d'un Jésuite et d'un bon Français, révélé pour le salut de l'État à tous les vrais catholiques par le bon génie de la France, est un texte, on pourrait dire, raciste. Ils reprennent l'idée qui est déjà ancienne de la satire ménipée du catholicon d'Espagne. Le catholicon d'Espagne, c'est une drogue qui transformerait, comme dans un roman de science-fiction, Les bons catholiques en mauvais catholiques, les bons français en mauvais français, il suffirait de prendre cette drogue, cette thériaque, si on veut, n'est-ce pas, pour que les charlatans espagnols, qui sont naturellement juifs ou morts, n'est-ce pas, de préférence, transforment les Français par là. De Français, vous devenez espagnol, ou pour tout dire, vous gagnez les écrouelles. Et ce terme revient très souvent dans ces pamphlets des années 1625-1626. Les Français qui passent aux idées espagnoles, à la défense de l'Espagne, qui deviennent des bons catholiques, entre guillemets, ils vont être marqués par les écrouelles. Les écrouelles, c'est, j'allais dire, le sida des Espagnols. Ils sont marqués par cela, et on les voit venir à Paris, ce qui est la vérification, la preuve par neuf, on les voit venir pour être touchés par le roi de France dans les très nombreuses cérémonies que Marc Bloch a étudiées depuis longtemps dans ses rois thaumaturges. C'est la preuve même que le roi d'Espagne est inefficace. Il n'est pas capable de guérir ses propres sujets des écrouelles, et ils sont très nombreux à être gagnés par cela. Et si les Français adoptent ces idées, ben, ils auront des marques, naturellement, d'écrouelles. Les jésuites sont les inventeurs et les distributeurs de cette pernicieuse drogue. Quiconque s'en sert prend en haine comme eux sa propre patrie et son roi, pour courir après la domination étrangère. Ce sont des vérités aussi claires que le jour, mais vous fermez les yeux afin de ne les voir pas. Il y a des instruments multiformes à travers l'Europe qui diffusent les idées espagnoles et qui travaillent à la monarchie universelle des Habsbourg, ce sont naturellement les jésuites. Voyez au nom de Dieu si davantage vous n'approuvez le meurtre commis en la personne de nos rois, parce que les jésuites ont tué, naturellement, ont fait tuer Henri IV. Que les jésuites en sont les auteurs, puis qu'ils ont fourni les instruments, que ces détestables parricides n'ont été perpétués que pour l'avancement des affaires d'Espagne. Et puis alors, l'auteur inconnu du jubilé d'un Espagnol nous dit qu'il s'est trouvé, par hasard, il allait se confesser, dans l'église des jésuites de la rue Saint-Antoine. C'est la maison professe que tout le monde connaît, n'est-ce pas, qui s'appelle aujourd'hui l'église Saint-Paul. Il a surpris un dialogue derrière un pilier entre deux personnages. L'un était vêtu à la mode espagnole. Il était basané de visage et il avait les écrouelles au-dessus de la gorge. Donc il est typiquement espagnol. Pour l'autre, je ne pris pas garde comme il était vêtu, nous dit l'auteur, mais il avait la charnure blanche. Il avait en récompense l'âme noire et les écrouelles ne paraissaient pas déjà en aucune partie de son corps, c'est qu'il les avait enracinées dans le cœur. Ça, c'est le français qui est corrompu par les jésuites, naturellement. Je trouvais que véritablement l'un était espagnol parce qu'il en avait le poil noir, le teint, la mine, la parole et l'habit, et les écrouelles marquent infaillibles. Quant à l'autre, je reconnus visiblement qu'il était jésuite, comme j'ai déjà bien jugé par ses discours, au moins il en avait la façon, la fêterie et l'habit, portant deux longues robes l'une sur l'autre, un peu plissées dans le dos, garnies chacune d'un haut collet aux extrémités, duquel celui de la chemise paraissait à peine, son chapeau était bas de forme et à grand bord, accompagné d'un cordon tout plat et fait en guise de ceinture. Au reste, le visage demi-caché, là-dessous, semblait s'y plaire comme dans l'élément de ses feintes et de ses déguisements. On voit, n'est-ce pas, le jésuite, je dirais, revu et corrigé à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle dans des littératures anticléricales et marquées du sceau maçonnique. Le roi d'Espagne nous est voisin, écrit-il, par la Flandre. Mais il a des colonies dans les principales villes du royaume. Il a étendu ses frontières jusque dans nos desseins, dans les consciences des ministres de l'État. Là, il s'agit tout simplement de demander l'épuration, n'est-ce pas ? Quel malheur pensez-vous qui nous arrive, ou plutôt quel bonheur pensez-vous qui ne nous arrive pas, si vous vous défaites une fois de ces traîtres, de ces monstres à double visage, de ces basiliques, de ces dragons, de ces maranes, naturellement, qui par leur contagieux attouchement font plus venir d'écrouelles à vos sujets, il parle au roi, que vous n'en guérissez à ceux du roi d'Espagne. Conclusion, il faut se venger de ces monstres d'enfer, ce sont des diables incarnés, et il faut les chasser de France comme Philippe Auguste, jadis, a chassé les Templiers. Il y a un fils trompe de Philippe, n'est-ce pas ? Mais peu importe, n'est-ce pas ? Il faut chasser la cabale de Loyola. Cette cabale de Loyola est d'origine marane. Alors je crois que ces textes, sur lesquels je vais très vite, n'est-ce pas, renferment énormément d'éléments dont on peut dire, bien évidemment, qu'il s'agit d'un racisme anti-espagnol. Tous les éléments y sont, c'est-à-dire les critères physiques, l'abomination marquée par ses caractères spécifiques de l'espagnol, la maladie contagieuse et le fait qu'on peut les attraper comme une véritable maladie. C'est plus élaboré quand même dans La Motte le Veillé. La Motte le Veillé est mort en 1672, mais c'est un personnage qui est tout à fait intéressant parce qu'il a été d'abord le précepteur du frère de Louis XIV et ensuite le précepteur de Louis XIV lui-même. Ça a été un protégé de Richelieu qui l'a placé là pour être le premier précepteur du dauphin. Et La Motte le Veillé est un personnage, tout, je dirais, libertin, on le connaît parfaitement. Il a donné un discours de la contrariété d'humeur qui se trouve entre certaines nations, et singulièrement entre la française et l'espagnole, qui a été publié à Paris en 1636, dédié à Richelieu, et où on trouve quantité de choses très intéressantes pour montrer qu'il y a une véritable dichotomie entre la France et l'Espagne. Ce sont des pays qui ne peuvent pas s'entendre, je dirais, intrinsèquement. Alors il dit pourquoi? Parce que, par exemple, le diamant et l'aimant ne peuvent pas s'entendre. Le roseau et la fougère, la brebis avec la chèvre, la poule, elle, Milan. Le dauphin déteste la baleine, Rome déteste Carthage, les Perses détestent les Grecs, la France ne peut pas s'entendre avec l'Espagne. C'est un mode de raisonnement qui, pour nous, nous paraît naturellement bizarre, parce que nous avons l'habitude des raisonnements de nature économique, d'affrontement moderne. Mais ici, il est bien évident que ce raisonnement analogique a beaucoup d'importance à l'époque. Et il va loin dans cette présentation antagoniste. Il nous dit par exemple que l'Espagne est chaude et sèche. Pensez tout à fait à la pharmacopée, à la médecine de l'époque, n'est-ce pas, aux quatre propriétés des corps, etc. La France est froide mais arrosée de plusieurs rivières. Les Français froids et humides comme leur terre, d'où vient leur blancheur. Les Espagnols chauds et secs comme la leur, ce qui les rend basanés. Les Français sont donc gais, francs, hospitaliers, libéraux, religieux, sans cérémonie, bons cavaliers, volages quand même, n'est-ce pas? Pleins de boutades, causeurs, médisants de leurs compatriotes chez les étrangers, ce qui n'est pas une bonne chose, ne pouvant souffrir la faim ni les autres incommodités, les Espagnols sont mélancoliques, mélancoliques au sens fort de l'époque, hein, dissimulés, inhospitaliers, avares, superstitieux, importuns en civilité, cependant constants, taciturnes, se prisant les uns les autres hors de leur pays, ils serrent les coudes, les Français, eux, ils pensent qu'à se diviser, n'est-ce pas? Ils sont bons dans l'infanterie, endurant dans la faim, dans la soif, toutes les fatigues de la guerre. Ça fait penser à Richelieu qui, dans son testament, n'est-ce pas, dit « les Français sont incapables de se battre, c'est pas une nation militaire, donc il faut prendre des éléments étrangers. » Le Français est grand corps, l'Espagnol petit. Le premier a le poil blond, l'autre noir, on retrouve toujours les mêmes choses. L'un porte les cheveux longs, l'autre court. Le Français mange beaucoup et rapidement, l'Espagnol peu et lentement. Ça fait penser tout à fait aux sortes d'anthropologie faite par les jésuites à la même époque dans la collection Twites qui fait 70 volumes, on l'en trouve n'importe où, n'est-ce pas? Où ils opposent sur deux colonnes, et il y a même des jésuites qui tracent une ligne verticale et qu'ils mettent sur deux colonnes les mœurs des Indiens à Benaki ou Micmac, et de l'autre côté, les mœurs des Français. Eh bien, ici, vous avez la même chose. Vous avez une vision, n'est-ce pas, en blanc et en noir, des deux côtés. Le Français se fait servir le bouilli le premier, l'Espagnol le rôti, le Français met l'eau sur le vin, l'Espagnol le vin sur l'eau. Pour moi, c'est le même résultat elle-même, c'est de gâcher le vin, n'est-ce pas, ça gâche le vin. Le Français parle volontiers à table, l'Espagnol n'y dit mot. Il y a ainsi 27 pages, c'est quand même que j'ai lu attentivement, d'opposition, n'est-ce pas, physique, biologique, intrinsèque entre les deux. Qu'est-ce qu'on peut dire alors pour définir un Français, dit-il à la 27e page? Eh bien, on ne peut rien dire de mieux qu'en disant qu'il est un Espagnol à l'envers. Les Français ajoutent que quand en l'année 1610, les Espagnols chassèrent 900 000 morisques d'Espagne, où leurs prédécesseurs avaient habité plus de 900 ans continuellement, ils firent paraître plus de crainte d'avarice et d'inhumanité et de raison d'État que de religion. Là, ils reprochent l'expulsion des morisques. En ce qui concerne les Juifs, ces grandes et réitérées expulsions de Juifs au nombre de 800 000 têtes, astucieusement, ils retournent la raison d'État. C'est lui, La Motte le Veillé, c'est le champion de la raison d'État. hein, au sens naturellement que j'ai défini au sens machiavélien. Mais il dit, si on les a chassés, c'est pas pour des raisons de religion, ça peut pas l'être. Ça ne peut être que pour des raisons d'État, puisque le pape et les princes chrétiens acceptent dans leurs États les juifs. Par conséquent, n'est-ce pas, sous-entendu, le roi d'Espagne, c'est quelqu'un qui participe au système épouvantable de la raison d'État. Chacun sait qu'il n'y a pas moins de maranes, d'alumbrados, d'illuminés, de juifs et de mahométans secrets en Espagne qu'il peut y avoir de huguenots reconnus en France. Ah ben bien sûr, parce que qu'est-ce que les Espagnols reprochent aux Français, c'est le cardinal de La Rochelle. Hein, c'est-à-dire Richelieu mate La Rochelle, mais après ne supprime pas l'édit de Nantes. Et parmi les demandes que faisaient les bons catholiques, il y avait naturellement la suppression de l'édit de Nantes. Donc la France tolère sur son sol, c'est pour ça qu'elle est mauvaise catholique, elle tolère l'hérésie sur son sol, alors qu'il y a les serments du sacre, etc., qui l'interdisent. Et ici, eh bien, il dit, regardez chez vous, c'est pas, vous êtes plein de maranes, vous êtes plein d'illuminés, vous êtes plein de juifs, et vous êtes plein de mahométans secrets. Pour toucher ce qui est le plus éloigné, les inhumanités prodigieuses exercées dans les Indes occidentales. Il y a une gradation. On part ici, donc, de la raison d'État. On parle de l'affaire des Morisques, on parle de l'affaire des Juifs, et on va arriver aux Indes occidentales. Ça a été tout ça une mauvaise préparation évangélique. Le massacre de 800 000 hommes tués dans une seule île de Saint-Domingue n'était pas un trop bon moyen pour apprivoiser à la fois ceux du continent et la défense expresse d'apprendre à lire et à écrire à ces pauvres sauvages, se lit dans les propres historiens espagnols. Ça se termine sur quelque chose qui apparaît comme plus abominable encore. Il dit que les Indiens ont décidé de se détruire eux-mêmes, les femmes voulant systématiquement se faire avorter. Et c'est la haine provoquée par les Espagnols qui les a entraînés à cela. Les textes sont nombreux et semblables, et je vous lasserai, mais autour de l'entourage de Richelieu, des gens comme Jérôme Bignon, historien, maître de la bibliothèque du roi, qui a été même dans le conseil de régence d'Anne d'Autriche, après la mort de Louis XIII, dans l'excellence des rois et du royaume de France, en 1610, beaucoup plus tôt, avait exactement les mêmes idées. Il y a dans le premier XVIIe siècle, une constante parmi ceux qui défendent la politique royale contre l'Espagne, soit avant le début de la guerre ouverte, soit après la guerre ouverte, d'hostilité en utilisant le fond commun dont j'ai parlé. Mais on peut dire que la constante quand même dans tous ces textes, c'est l'idée de pureté et d'impureté. L'Espagne est impure. Et c'est naturellement, quand on veut toucher un adversaire, il faut le toucher au plus vif de ce qui peut le blesser. Qu'est-ce qui peut le blesser le plus, les Espagnols, avec les statuts de pureté de sang auxquels on a fait allusion ce matin? C'est naturellement de leur dire, et ça doit les révulser au dernier degré, que ce sont tous des bâtards de maranes, de juifs de mahométans. L'Espagne a été toujours, nous dit Jérôme Bignon, prise, tenue et commandée par des étrangers. La France n'a jamais été prise par des étrangers, car les Gaulois étaient frères des Germains. C'est la même chose. Il n'y a pas eu d'invasion, jamais eu d'invasion en France. Alors qu'en Espagne, elle a été toute remplie de morts et de sarrasins qui l'ont tenue 700 ans, et ils ont laissé des traces. On peut juger de là que c'est un peuple mêlé, composé de tant de nations qui ont demeuré dans ce pays, ce que leur langue même la plus polie et la plus commune démontre, tenant pour la plupart du go et de l'arabesque. L'Espagne donc est impure. L'Espagne, ennemie de la France, ne peut pas utiliser par conséquent toute sa phraséologie catholique. Elle en est absolument indigne. Et conclusion, le roi de France est le seul véritable représentant du catholicisme pur et dur. Quels sont les gens qui ont pu contribuer à accréditer ça? Il y a des réfugiés anti-espagnols qui sont d'autant plus farouchement anti-espagnols qu'ils en viennent. J'en prends deux très rapidement. Il y a eu naturellement quelqu'un qui est Antonio Pérez, qui est bien connu des hispanisants, sur lequel il y a eu quantité de travaux, qui était secrétaire de Philippe II depuis 1567, qui a eu des difficultés sur lesquelles je ne reviens pas. Ça a entraîné en Aragon des troubles considérables, les gens d'Aragon en profitant pour essayer de reprendre leur indépendance, la suppression de l'autonomie aragonaise et du grand juge, et Antonio Pérez est venu réfugier à Paris et à Londres. En 1598, il a essayé de se faire inscrire dans le traité de Vervins, il a échoué, et il a continué comme espion au service de la France. Alors, on peut se demander d'ailleurs de qui il a été espion, parce qu'il y a eu certainement des changements dans son attitude, mais il a entraîné quantité d'opposition en France qu'il a alimenté de sa haine. À l'époque de Richelieu, il y a deux personnages extrêmement importants qui sont réfugiés. Il y en a un qui est très connu, c'est Campanella, bien sûr. Campanella qui vient d'Italie, qui a été 27 ans dans les prisons italiennes, un dominicain dont on a dit qu'il était un des pères du communisme utopique, avec d'autres. Je ne parle pas ici de la Cité du Soleil, bien sûr, mais le Campanella d'origine est un Campanella pro-espagnol qui a fait des premiers travaux offrant, avant son emprisonnement naturellement, offrant à l'Espagne la monarchie universelle. Démêlé en Espagne, rébellion à Naples, il se retrouve 27 ans dans les prisons napolitaines, donc espagnoles, sauvé par le pape, sauvé par la France, se réfugie en France, et à ce moment-là, il change naturellement, quand on était 27 ans dans les prisons espagnoles, même si elles sont douces, et ce n'était probablement pas le cas, on change d'idée, et il fait, à la fin de sa vie, un De Monarchia Hispanica, publié juste au moment de sa mort, en 1639, qui est une véritable charge contre l'Espagne, offrant alors à celui pour qui, comme Virgile, n'est-ce pas, il annonce la venue de quelqu'un qui est donné par Dieu, qui est le futur Louis XIV, et il lui promet l'empire du monde. C'est à la France de réaliser maintenant l'empire du monde sous sa coupe et de détruire la puissance espagnole. Toute la haine de Campanella contre l'Espagne, qui a été d'autant plus forte qu'il était avant amant de l'Espagne, nous amène bien sûr à penser que ces réfugiés ont joué un rôle. Il y a quelqu'un de moins connu qui est Alphonse Lopez. Alphonse Lopez est, j'allais dire l'âme damnée, mais ce serait prendre tout de suite parti, c'est disons l'homme à tout faire de Richelieu. Il se prétend morisque d'Aragon, en fait il est d'origine juive. Dans le Richelieu et Olivares d'Eliot, il y a des passages le concernant, puis il y a des travaux anciens sur lui. En 1610, même chose, il arrive en France. Il a dû cornaquer, pour parler vulgairement, l'émigration des Morisques, et puis, tout en étant juif, et puis il est resté en France. Il y prospère comme diamantaire, il a prêté beaucoup d'argent à des membres de la famille royale, de l'aristocratie aussi, et il a été l'agent financier de Richelieu. Richelieu l'a utilisé, par exemple, pour faire sa ville neuve, une ville nouvelle, n'est-ce pas, une bastide, celle de Richelieu, qui est le cœur de son duché Paris, et Lopez, en tant que financier, s'en est occupé. Et il a surtout contribué par des coreligionnaires et des réseaux de coreligionnaires, ce qui prouve bien qu'il était marane, avec les gens de la Nouvelle-Jérusalem, c'est-à-dire d'Amsterdam, pour faire une flotte française en achetant des bateaux hollandais pour le comte de Louis XIII et de Richelieu. Il entretenait des liens avec la communauté juive portugaise internationale. Et il est très certain que Lopez, Campanella et Antonio Pérez avant ont entretenu en France, fait connaître en France, des éléments de la légende espagnole que, bien évidemment, on connaissait déjà par la lecture de Las Casas et d'autres. Pour terminer, je remonte dans le temps, mais alors je vais m'arrêter, je dirais, heureusement pour mes auditeurs, assez vite, à la fin du XVIe siècle. À la fin du XVIe siècle, il y a naturellement ces deux parties affrontées de la Ligue et du roi de Navarre. Posons-nous la question. Est-ce que les textes de Montesquieu et de Voltaire, dont on revoit exactement les mêmes thèmes sous la plume des hommes de Richelieu, est-ce qu'on les trouve à nouveau au XVIe siècle? Eh bien, au moment où la Ligue est à son terme, il y a un grand texte, je me limite à ça parce qu'il y a des pamphlets qui sont aussi nombreux qu'au XVIIe siècle, c'est la satire Ménipée. La satire Ménipée qui est lancé à Paris en 1593, c'est le pamphlet des politiques, c'est-à-dire de ceux qui veulent la fin des ligueurs, des Guises à Paris, et on retrouve dans la satire Ménipée l'idée du catholicon d'Espagne. Il y a deux charlatans qui sont en scène, l'un espagnol et l'autre lorrain. C'est-à-dire la même chose, puisque le lorrain, c'est le parti des Guises. Et ils vendent dans la cour du Louvre une drogue qui permet tout, et qui permet notamment de ne pas tenir compte des règlements de l'Église, de pouvoir tuer et de voler impunément si on absorbe cette drogue. Il y a dans ce texte la fameuse procession de la Ligue, et puis la description des personnages de la Ligue qui est bien connue. Je m'en suis tenu, moi, uniquement à l'affaire qui nous intéresse ici, c'est-à-dire l'affaire de la légende noire espagnole. On nous parle donc de cet Espagnol et de ce ligueur qui sont en train de vendre leur drogue. Ce débitant de Thériac, petit-fils d'un Espagnol de Grenade, relégué en Afrique pour le mahométisme, médecin du shérif, le père de ce marchand de Thériac étant mort, il vint en Espagne, se fit baptiser, se mit à servir à Tolède au collège des Jésuites. Vous retrouvez tous les éléments mis en place, qui sont ceux du 18e et du 17e. Espagnol de Grenade, naturellement, il n'est pas de Burgos. Il a été relégué en Afrique, médecin du shérif, c'est dire sa qualité. Il est venu en Espagne, il s'est fait baptiser, mais naturellement c'est un baptême qui ne vaut rien, et il sert chez les jésuites. Les jésuites sont toujours à coquiner avec tout ce qu'il y a de plus mauvais pour la chrétienté. Et dans la fameuse harangue de Daubray pour le comte du tiers état, qui représente le parti navarrais, le parti du futur Henri IV, et qui est l'homme bon entre tous, il nous dit que s'il aime tant la religion catholique et ceux qui n'en sont point, comment peut-il endurer le roi d'Espagne, les juifs, les maranes en son pays? Comment se peut-il accorder avec les turcs et les mahométans d'Afrique, dont il achète la paix bien chèrement? Toujours la même affaire, n'est-ce pas? Vous nous reprochez d'être alliés aux Anglais, puisque la reine Elisabeth envoie le général Norris sur les côtes bretonnes avec des troupes qui, bien évidemment, sont protestantes, ce qui est vrai pour les politiques. Mais vous nous envoyez des Espagnols qui sont en France également, au sud de la Bretagne, avec Don Juan de l'Aquila et ses contingents. Et par-dessus le marché, qu'est-ce que vous nous amenez? Ben, vous nous amenez pas des Espagnols pur souche, vous nous amenez des Juifs, des Maranes et des Mahométans. C'est par vos travaux et vos subtilités qu'êtes maintenant seigneur des Indes, desquels vous tirez des doublons, qui vous ont servi avec vos sermons et artifices à vous rendre paisible possesseur de tant d'autres royaumes. L'Inquisition, qui a tant de vogue chez vous, dans toute l'étendue de votre domination, n'est-elle pas de votre vue? Elle vous sert de mort et d'éperon pour tenir et faire trotter qui il vous plaît. Bref, sans Icelle, tous les pays que vous tenez unis, ou se désuniraient, et m'assure que vos fécondes Indes, le Portugal, l'Écosse et tous vos autres pays bridés par l'Inquisition vous joueraient de beaux tours s'il n'y avait l'Inquisition. Ben, l'Inquisition, c'est le ciment du système espagnol partout. En conclusion, bien, on peut dire qu'il y a permanence des thèmes de la légende noire, mais naturellement, ces thèmes sont repris par des philosophies bien différentes. Personne ne peut dire, bien sûr, que les philosophes du XVIIIe siècle partagent les mêmes idées que les gallicans français de l'époque de Richelieu. Dans ce groupe des amis de Richelieu, il y a des gens qui sont libertins, qui sont peut-être déjà des prédéistes, mais il y en a beaucoup qui sont parfaitement catholiques. C'est, d'autre part, la différence du XVIe, XVIIe d'un côté et du XVIIIe de l'autre, c'est qu'au XVIIIe siècle, ça n'est plus dans le cadre d'affrontements politiques du tout entre la France et l'Espagne. C'est même l'alliance des deux couronnes et l'alliance des Bourbons, c'est uniquement sur un plan idéologique d'attaque contre l'Église. Alors qu'au XVIIe et au XVIe, c'est entièrement dans les grands conflits franco-espagnols que se sont mûris ces textes qui sortent tous finalement des auteurs espagnols eux-mêmes, dont on a parlé ce matin, qui critiquent véhémentement le système de l'Espagne aux Indes. Ce qu'il faudrait voir également, et ce que je n'ai pas pu faire naturellement, c'est que la France n'est pas la seule à participer à la diffusion et à l'élaboration de la légende noire. Je l'ai fait pour présenter simplement un ensemble de textes dont certains, pour le XVIIe, sont naturellement beaucoup moins connus que Voltaire et Montesquieu. Mais l'Angleterre, à partir du moment où elle a eu cette peur panique de l'invincible armada, a entretenu, comme la Hollande, très largement l'idée de la légende noire. Tous ont puisé dans les mêmes classiques. Personne, naturellement, ne parlera des massacres d'Indiens par les Anglais en Amérique du Nord, et personne, par exemple, au XVIIIe siècle, ne parlera tout simplement du grand dérangement de 1755 quand les Acadiens sont réduits, on peut dire, dans un, je dirais pas esclavage, mais j'utiliserai la nuance qu'on a utilisée tout à l'heure, sont réduits dans un état de captivité. Ce sont des captifs dont beaucoup mourront sur les bateaux anglais en France et sur le sol américain. Et tout cela vient finalement de ce XVIe siècle des politiques de l'époque d'Henri de Navarre, transite jusqu'au XIXe siècle, où les romantiques contribueront encore plus à répandre la légende noire. Et il existe donc une certaine continuité, et je dirais qu'aujourd'hui, ouvrant certains documents, comme un document qui s'intitule « Le choc des cultures et l'évangélisation du monde », un document venu du secrétariat de la Conférence des évêques, j'ai été très intéressé pour voir jusqu'au XXe siècle la suite de ce qui commence finalement au XVIe. Je vous remercie.
En votre nom, je remercie Monsieur le recteur Durand de cette étude très approfondie et malgré tout très neuve, et qui nous montre l'origine, le développement et la permanence de cette légende noire. Et c'est extrêmement curieux, parce qu'on voit en somme qu'il y a à la base une hostilité en quelque sorte congénitale entre certains milieux français, qui sont très accueillants pour des Espagnols qui sont mal vus chez eux, et cette politique espagnole que l'on critique, que l'on dénature et que l'on calomnie souvent. Il y a là une espèce d'état d'esprit très curieux et dont il faut tenir compte quand on parle d'une époque, d'une période et de la politique qui s'est déroulée dans ces pays-là. Je crois là que vraiment, ça nous montre une permanence de cette hostilité de certains milieux espagnols réfugiés à l'extérieur et de certains milieux français qui ont volontairement noirci le tableau et jusqu'au XIXe siècle utiliser tous les arguments, même les plus contestables, pour montrer dans l'Espagne un pays dont l'Inquisition, poussée au maximum de noirceur, serait en quelque sorte l'emblème. Et il est assez curieux de voir que jusqu'à notre époque, ces idées ont survécu et se retrouvent chez pas mal d'auteurs. Si quelqu'un demande la parole, je serais heureux de la lui donner.
Monsieur Corbusier. Monsieur
Banco. Oui, je remercie. Un collègue, en fait, j'appelle les remerciements parce qu'entre nous, amis,
Oui, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, naturellement, c'est toute l'iconographie qui a été étudiée dans un colloque récent. Dans un article des actes d'un colloque récent à Bordeaux, toute l'iconographie anti-espagnole qui ridiculise naturellement, comme le XXe siècle saura le faire pour d'autres populations. Mais je répète quand même, pour décharger les Français dont j'ai abusivement parlé souvent, ou disons trop cruellement, que du côté espagnol, il y a des choses comparables et qu'il faudrait rapprocher les deux pour avoir une saine idée de la détestation qu'ils pouvaient entretenir les uns contre les autres. Mais les fondements ne sont probablement pas les mêmes. Ici, il y a des fondements qui tiennent à notre thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire véritablement qui sont dépendants de l'évangélisation des Indes, des échecs connus aux Indes et en particulier de l'affaire des Indiens. Monsieur Branco.
Ne pensez-vous pas que l'accélération de la propagande, l'accentuation de la propagande autour des années 1600, une alliance monstrueuse, c'est-à-dire avec les protestants contre les catholiques?
Tout à fait. Et là, on sait très bien que les Espagnols, quand même, ont subventionné le duc de Rohan, qui, d'ailleurs, dans ses écrits, ne l'aurait pas tellement défavorable. Enfin, il glisse suavement, n'est-ce pas? Quand il fait un tableau des princes en Europe, il glisse tout à fait là-dessus. Ce sont des ennemis, mais il ne reprend. Il est d'une hauteur telle, d'ailleurs, et d'une intelligence, il faut bien dire telle, qu'il ne reprend aucun des arguments pollués dont j'ai pu parler. Et puis alors, du côté de la France, on entretient naturellement l'alliance extérieure avec les princes protestants que les Espagnols dénoncent très facilement. C'est sûr. Alors là, ça contribue à la préparation psychologique.
Monsieur le recteur, j'aurais juste une petite remarque en plus. Vous avez parlé de racisme. Vous savez bien que le racisme, ce ne concerne qu'une seule catégorie d'individus.
Oui, j'ai moi des idées extensives, si vous voulez. Mais je crois qu'on peut là dire qu'il y a un racisme réel dans les propos qui sont tenus. Car il ne s'agit plus de critiquer des attitudes politiques ou religieuses, mais on voit intrinsèquement cela lié à la biologie de l'individu ou de race, d'affaires de race. Alors, je ne me souviens plus du mot, les Espagnols parlent de gavachos pour les Français. Qu'est-ce qu'ils doivent avoir les mêmes tendresses, j'imagine. Mais il faudrait voir sur quoi se fonde cela. Je crois que ça se fonde sur l'hérésie, très largement.
Comme je suis à moitié espagnol, je me suis diverti, c'est mon problème. Il y a d'abord, tu as eu raison de dire, la persistance. Je me rappelle, il y a eu des rapports très difficiles, des heures entre le gouvernement, il y a un an. Et il y a un journaliste français qui s'est fait tabasser à Madrid alors qu'il était furieux. Alors on a eu, oui, c'est un pays qui n'aime pas la liberté, c'est le pays de l'Inquisition. Et alors, il y a un ingrédient qui s'est ajouté à ça depuis 36, il y a Franco. Parce que ça, oui, alors là, c'est Franco et l'Inquisition. Alors, pour les Anglais, il y a un très bon livre que je recommande, c'est le livre de Julio Marias sur la leyenda negra. Alors, lui, il a étudié les Anglais. Alors, pour les Anglais, l'Espagne est arriérée scientifiquement, puis c'est le pays des gitans. C'est le Gypsy Country. Alors, les Lindavos sont tous des gitans. Et alors, à l'époque, Clé, dont tu as parlé au temps de Richelieu, alors eux, c'est pas. Bon, ils ont quelques mots sur le physique des Français, etc. Mais le grand ennemi, c'est Richelieu. Et alors, il y a Quevedo qui a fait deux magnifiques pamphlets. Il y en a un, c'est les médecins de la faculté de médecine de Montpellier, qui se penche, qui dissèque le cerveau de Richelieu, et il y trouve à l'intérieur la fièvre purpurale qui pourrait empoisonner le roi. Et il y a un autre texte de Quevedo, alors celui-là est accessible, ça s'appelle L'heure de tous, parce que Genèse, l'équipe, a fait la traduction, une traduction bilingue chez Auguet. Et alors c'est sur la situation politique. Sur les situations politiques de l'Europe. Il y a, entre parenthèses, un très beau passage antisémite sur les rabbins qui se réunissent pour régler les affaires du monde à Salonique. Et puis alors, il y a trois chapitres consacrés à Richelieu. Mais alors, l'invective. Par exemple, il y en a un, vous m'excuserez des termes, mais ce sont les termes de Quevedo. Et toi, Armand Duplessis, fils de putain qui copule avec les protestantes, et ça continue comme ça pendant une page. Alors ça, ils ont une haine de Richelieu. Ça, c'est là. Mais, et les arguments de l'annonce sur le fait que la France est un pays impur religieusement, ont été repris dans la propagande franquiste contre le gouvernement du Front populaire dans les années 36-30.
Je crois que ce qui est important, c'est précisément cette idée de pureté et d'impureté qui, pour le XVIe siècle, est tout à fait capitale dans les deux pays. Il y avait une question.
Je voulais juste vous dire un petit commentaire, en moins 100 ans, mais je pense qu'en dehors de l'hérésie, cette époque, comme vous avez fait le distinguo entre le 16e et le 17e, donc l'époque 16e et 17e, correspond aussi politiquement à un moment où l'Espagne est quasiment finie, terminée politiquement, alors que la France, qui est aussi terminée, est quand même dans une guerre religieuse qui peut mettre en cause sa suprématie. Et donc je pense qu'il y a aussi un argument politique qui a évidemment joué, comme vous l'avez souligné aussi, dans ce domaine. Je suppose que c'est la même.
Là, on a un témoignage un peu trivial du professeur de secondaire à propos de la légende noire, pas spécifiquement espagnole. La réussite de la propagande a été totale dans l'université française en 3 siècles. Totale. Lorsque vous faites passer le baccalauréat, l'oral de français, histoire, à longueur de journée, inquisition, jésuites, pour les hispanisants, c'est franco, c'est extermination des aztèques, non pas des personnes physiques, mais de la glorieuse civilisation incas, etc. 5 ou 6 thèmes suffisent à meubler l'esprit et la cosmologie et la métaphysique de 90% des collègues fonctionnaires. Hélas, agrégé, j'allais dire, c'est seulement, je crois, dans la toute jeune génération de vos élèves, 20-25 ans, que commence à être enfin créée une liberté d'esprit. Vous considérez que les professeurs de 45-50 ans fonctionnent sur des schémas absolus, inconditionnels, et donc, il faudra combien de générations pour arriver à retomber sur nos enfants? 3 générations, 4, c'est sans fin. C'est effrayant.
Encore un effort.